Bien-aimés frères et sœurs, je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous adresser mon troisième et dernier message sur ce que j'ai appelé la neuvième plaie. Et j'aimerais relire encore une fois dans le livre de l'Exode, au chapitre 10 et au verset 21. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Et durant cette période, savez-vous ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël? Le verset suivant nous dit « Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. » Le « mais » qui introduit cette phrase est très réconfortant. Le peuple élu a connu la bénédiction de la protection de l'Éternel, alors que l'Égypte, dans la même période, subissait ses jugements. Jusqu'à l'enlèvement, l'Église va connaître des moments très difficiles. Il ne faut pas se leurrer, nous entrons dans des périodes apocalyptiques. Mais je crois que l'Église sera au bénéfice de la protection de son Seigneur et qu'elle sera comblée des richesses incompréhensibles de Christ. 2 choses ont fait la différence entre les Égyptiens et les enfants de Jacob. D'une part, un peuple portait en lui le nom et les desseins de Dieu, Israël. Et d'autre part, ce peuple habitait un territoire sur lequel Dieu veillait, Goshen. Israël n'avait ni choisi ni réclamé ce pays, il lui fut échu en partage par la providence divine. Qui l'a établi là? Pharaon? Mais non, c'est Joseph. S'adressant à ses frères, il dit « C'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz « Ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. » Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils. Là, je te nourrirai. Ainsi, tu ne périras pas, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Ce texte est dans la Genèse au chapitre 45, les versets 5, 7, 9, 10 et 11. Et un peu plus tard, Pharaon va confirmer la qualité de cette contrée Goshen. Il dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. » Genèse chapitre 47, les versets 5 et 6. Bien-aimés frères et sœurs, notre divin Joseph, le Seigneur Jésus, nous a établis dans un territoire spirituel privilégié. Et c'est là que nous avons trouvé le salut. C'est là aussi qu'il nous a fait vivre par une grande délivrance. C'est là encore que nous demeurons près de lui. Et c'est là, enfin, que nous sommes nourris. En Christ, vous et moi, nous jouissons du meilleur. Ainsi, quand Dieu envoya les mouches contre l'Égypte, eh bien, il distingua le pays de Goshen ainsi qu'il le dit à Pharaon. « Je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. » Exode chapitre 8, les versets 17 à 19. Quand l'Éternel frappa les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et les brebis des Égyptiens, eh bien, il a distingué entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Vous pourrez relire cela dans l'Exode au chapitre 9, les versets 1 à 7. Et plus tard, l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et la parole de Dieu nous dit que le feu se promenait sur la terre. Le résultat, vous l'imaginez bien, fut une dévastation épouvantable dans tout le pays. Mais que se passa-t-il en Goshen ? Rien. La parole de Dieu nous dit dans l'Exode au chapitre 9, verset 26, « Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. » Alors, je ne vous dis pas ces choses pour créer en vous maintenant de vaines illusions. Nous aurons, mes frères et sœurs, des tribulations dans le monde. Jésus nous en a avertis. Nous allons certainement connaître de grandes souffrances dans toutes sortes de domaines. Mais je dis, néanmoins, le Seigneur va prendre soin des siens. Et je parle ici de votre Goshen spirituel. Où sera la différence entre le monde et vous dans les heures sombres qui s'approchent? Si vous portez en vous le nom et les desseins de Dieu, vous vivrez. Dieu n'est pas intéressé par notre carte de membre de l'Église, ni par le fait que nous nous appelons chrétiens. Ce qui importe, c'est qu'au temps de la neuvième plaie, comme je l'appelle, c'est de porter en vous le caractère de Dieu et de vivre dans la connaissance de ses voies. Christ vit-il sa vie en vous? Êtes-vous participant de la nature divine? Cherchez-vous les intérêts de Jésus? Travaillez-vous à l'accomplissement de sa volonté? Ce sont les questions qui doivent vous préoccuper et me préoccuper. Vous savez, l'heure a sonné où les apparences ne vont plus suffire et où va s'accomplir alors la parole du prophète Malachi au chapitre 3, verset 18 de son livre, où Dieu dit « Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Une autre question se pose maintenant. Sommes-nous restés dans notre Goshen, là où Dieu nous avait établis? Et au fait, que signifie Goshen? Ce nom veut dire terre herbeuse, terre de force, lieu du soleil. Par la providence divine, Joseph avait installé ses frères à l'endroit où ils allaient être nourris, fortifiés et éclairés. En ce qui nous concerne, je vous le rappelle avec bonheur aujourd'hui, Christ. Christ est notre nourriture, notre terre herbeuse. Il est notre force, notre terre de force. Et il est notre lumière, le lieu du soleil. Imaginez maintenant qu'un homme portant le nom de son peuple, Israël, ait franchi la limite du territoire de Goshen pour s'approcher des Égyptiens. À l'heure de la 9e plaie, il aurait été plongé lui aussi dans les épaisses ténèbres de l'Égypte. Vous portez le nom de chrétien, vous avez été édifié dans le Christ Jésus, demeurez-y jusqu'à la fin. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean parle à sa manière de ce que j'ai appelé la 9e plaie. Il écrit, 1 Jean chapitre 2 verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Les Égyptiens, pour ce qui les concernait, n'avaient rien à faire au pays de Goshen. C'était le territoire du peuple de Dieu. Et les ténèbres n'ont pas droit de citer au lieu du soleil. L'esprit de l'antéchrist doit absolument sortir du milieu de l'Église. Et Dieu s'en charge. Il s'en charge quand les siens se tiennent devant sa face. C'est pourquoi l'apôtre Jean ajoute ceci, toujours dans sa première lettre au chapitre 2, verset 19. Ils, les antéchrists, ils sont sortis du milieu de nous, donc ils y étaient. L'esprit de l'antéchrist était déjà dans certaines églises du premier siècle. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, dit Jean, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Mais maintenant je dis à l'inverse. Israël n'avait rien à faire au milieu des Égyptiens. Dieu lui-même avait fixé la demeure des siens. Le lieu du soleil, Goshen, ne doit pas s'enfoncer dans les ténèbres. L'Église du Seigneur Jésus doit absolument rester en son Goshen, ainsi que ne cesse de le rappeler l'apôtre Jean, et je vais encore le citer dans sa première lettre au chapitre 2, les versets 24, 27 et 28. Il écrit « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. » C'est comme s'il nous disait « Demeurez dans votre Goshen. » Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Vous avez remarqué combien de fois, poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Jean nous exhorte à demeurer dans les choses dans lesquelles nous avons été établis. Franchement, que font les chrétiens au milieu du monde? Dieu tolérerait-il aujourd'hui un évangile de compromis? Le Seigneur n'a-t-il pas déclaré « Sortez du milieu d'eux » et séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur, seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Bien-aimés, réjouissez-vous. Le peuple de Dieu vivra toujours dans la lumière, alors même que la neuvième plaie s'abat sur le monde. Au temps de Moïse, la vie dans la lumière a été le privilège de tout le peuple de Dieu. Il est écrit dans Exode 10, 23, pardon, « Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. » Le plus jeune, le plus faible, le plus âgé, le plus pauvre vivait à la lumière. Ne craignez donc pas. Si Christ est votre Goshen, vous savez, mon frère, ma sœur, où vous allez, et vous ne broncherez jamais. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 9 et 10, l'apôtre Paul parle de choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais de choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et il nous dit que Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est l'immense privilège de tous ceux qui habitent le lieu du soleil. Priez, prions, pour que Dieu nous donne encore l'esprit de sagesse et de révélation, pour que, dans sa connaissance, les yeux de notre cœur étant éclairés, nous pourrons explorer davantage les trésors de Christ. Je le répète et avec force, le monde va bientôt toucher l'épaisseur des ténèbres et connaître comme jamais auparavant les profondeurs de Satan. Nous pouvons toucher la gloire de la lumière divine, et l'Église fidèle va pouvoir sonder les profondeurs de son Dieu. À l'heure où les hommes ne se voient plus les uns les autres, comme je le disais dans mon message précédent, les enfants de la lumière, eux, peuvent partager une communion fraternelle intense et véritable. Dans la lumière, on se voit les uns les autres. C'est ce que déclare d'ailleurs l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 1er, verset 7. « Si nous marchons dans la lumière, comme il, Dieu, est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Et ici, j'aimerais préciser quelque chose parce que le verset n'est pas toujours bien compris. La communion dont parle l'apôtre Jean dans le verset que je viens de vous lire n'est pas la communion avec Dieu, mais celle que nous avons les uns avec les autres. Et je relis le verset. Si nous marchons dans la lumière, comme il, Dieu, est lui-même dans la lumière, alors nous, les uns les autres, nous sommes mutuellement en communion. Le mot grec qui est traduit dans ce texte par communion signifie commun à plusieurs personnes, partage, participation. Si vous marchez dans la lumière de Dieu, ceux qui aiment les ténèbres ne tarderont pas, soyez-en certains, à vous éviter. Ils se déroberont devant la lumière de Dieu qui est en vous. Vous n'aurez même pas besoin de couper les liens, car eux-mêmes le feront, et ils le feront très vite. Les ténèbres de la haine ne devraient pas séjourner dans le Goshen de l'amour. Les enfants de Dieu ont choisi leur territoire. C'est pourquoi l'apôtre Jean écrit plus loin dans sa lettre « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. 1 Jean, chapitre 2, les versets 9 à 11 et chapitre 3, verset 14. Je rendais visite un jour à une sœur âgée de l'Église. Dans l'entretien que j'avais avec elle, elle me fit part du conflit qui l'opposait à sa fille, qui elle aussi était membre d'une église dans une ville voisine. Le ton était agressif et le langage grossier. Après l'avoir écouté longuement, bien sûr, j'ai exhorté cette sœur au pardon. Et elle me répondit méchamment, « Monsieur Balière, plutôt mourir que pardonner. » Vous savez, il y a des paroles que nous ne devrions jamais prononcer. Dieu les entend. Quelque temps plus tard, cette femme, cette sœur, tomba malade. Un dimanche matin, elle demanda la prière des anciens, accompagnée de l'onction d'huile, selon le texte de Jacques 5, que vous connaissez. Mais sachant qu'elle entretenait sa haine et son refus de pardon, je lui ai signifié qu'elle devait d'abord mettre sa vie en ordre avec Dieu et d'accepter de pardonner. Et elle a refusé. Alors ce dimanche matin-là, nous n'avons pas prié pour elle. Quelques mois plus tard, cette femme mourut dans sa haine. Et je doute fort de son salut. Jésus n'a-t-il pas dit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu chapitre 6, verset 15. Que devient une âme à qui Dieu ne pardonne pas les offenses? Mais lorsque nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Un homme, membre de notre Église, souffrait d'asthme depuis 30 ans. Il me demanda si je voulais prier pour sa guérison. Or, il était en conflit avec un autre frère de l'Église. Ces deux hommes étaient dans le même lieu de réunion, dans la présence de Dieu, chantant les mêmes cantiques, participant au repas du Seigneur, mais ils nourrissaient du ressentiment l'un pour l'autre et ne se saluaient plus. Alors j'ai proposé un entretien avec ces deux frères. La rencontre eut lieu quelques jours plus tard. Ces deux hommes se sont expliqués avec calme, modération, et ils ont réglé leurs différends. J'ai alors proposé que l'un prie lui-même pour la guérison de l'autre, et ce dernier fut guéri instantanément de ses crises d'asthme. Je voudrais souligner enfin que la lumière favorise le mouvement. Si, à cause des épaisses ténèbres de l'Égypte, personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, il n'en fut pas ainsi pour les enfants d'Israël. Dieu est lumière. Et notre Dieu est aussi en mouvement. Le psalmiste dit au psaume 65, verset 12, que les pas de l'Éternel versent l'abondance. Le peuple de la lumière, le peuple de Goshen, peut donc se lever, il peut agir, il peut servir. N'occupons pas la terre inutilement. Servons Christ le Seigneur. L'Église infidèle, l'Église libérale, l'Église apostate est entrée avec le monde dans la 9e plaie et elle va s'y enfoncer de plus en plus. Soyons l'Église fidèle au Seigneur. Apprenons Christ. Vivons avec Christ. Vivons Christ et proclamons Christ. Que le Seigneur répande sur chacun de vous avec abondance toute sa grâce. Amen.